Slate Podcast.
Salut la Daronie. Chaque semaine, la question d'un parent en galère et Slate vous répond avec l'aide d'un ou d'une experte pour tenter de vous accompagner au mieux dans votre job de daron. Au menu de cet épisode de Salut la Daronie, une petite fille très turbulente, voire, pour parler familièrement, une sale gosse. Noémie a 8 ans et elle est particulièrement colérique. Dès que sa maman lui demande des choses simples comme ranger ses chaussures ou ses jouets, la petite pique des crises, elle donne des coups de pied, tape dans les murs. Autre problème, quand elle s'énerve, Noémie couvre d'insultes sa petite sœur âgée de 4 ans. Et Noémie s'énerve tout le temps, ses parents n'en peuvent plus, il n'y a qu'à l'école qu'elle se comporte très bien, en tout cas d'après ses enseignants, ce qui laisse ses parents très perplexes. Pour tenter d'y voir plus clair, nous sommes allés rencontrer la psychologue clinicienne et docteure en psychologie Marie Danet. Elle travaille actuellement sur la régulation émotionnelle et socio-émotionnelle chez les enfants et adolescents.
Déjà, ce qu'on peut noter, c'est que dans un premier temps, on voit que c'est des comportements qui ne se présentent pas à l'école. Donc c'est plutôt bon signe parce que plus des comportements difficiles vont se répéter dans des endroits variés et moins ce sera de bons pronostics entre guillemets dans le sens où ça veut dire que les difficultés de l'enfant sont plus sévères. Là, le fait qu'elle se comporte bien à l'école et qu'il n'y ait pas de difficultés particulières, ça montre qu'elle a la capacité de se contenir, de pouvoir gérer ses émotions dans un autre contexte. Alors parfois, ce qui peut se passer, c'est que finalement, il y a comme des normes qui s'installent dans chacun des environnements et du coup l'enfant, sans forcément le mentaliser en disant bon bah voilà, là je suis à l'école, je dois faire attention, se conforme aux attentes qui sont liées au milieu. Et donc c'est vrai que dans le milieu scolaire, l'enfant va pouvoir imiter aussi ce qui se passe avec ses camarades et donc se conformer plus facilement qu'à la maison où du coup il peut se permettre, entre guillemets, de pouvoir déborder davantage dans le sens où c'est un lieu qui est censé être sécurisant et donc on peut s'autoriser plus facilement à exprimer ses émotions.
Pour la psychologue, le problème tient peut-être de la rivalité entre les deux sœurs.
Finalement, on constate que dès lors que le deuxième ou les suivants commencent à se déplacer et commencent du coup à pouvoir investir l'espace, c'est-à-dire que du coup, l'enfant, le petit frère ou la petite sœur commence à devenir une menace pour son propre espace. C'est pas toujours présent, mais parce que d'une part, c'est le fait de découvrir qu'on n'est plus unique. C'est-à-dire que on n'est plus un être à part entière pour les parents. En fait, on doit partager le temps, l'investissement affectif, parfois aussi l'espace matériel avec quelqu'un d'autre, alors que finalement, on pouvait très bien s'accommoder d'avoir l'attention entière des parents. Et parfois, les enfants ressentent le besoin de se battre pour garder leur place dans le cœur des parents, ce qui n'est pas la réalité, mais ça peut être les perceptions des enfants.
Au-delà de la rivalité au sein des fratries, il y a aussi la personnalité de chacun des enfants qui commence à se développer.
Des enfants peuvent avoir de la rivalité aussi parce qu'ils n'ont pas le même tempérament. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans une fratrie un enfant qui peut avoir un tempérament plutôt solitaire où il a besoin d'avoir son espace, son temps. Et puis par ailleurs, un autre enfant qui, au contraire, a besoin d'être beaucoup en relation avec les autres, donc qui va constamment aller chercher son frère ou sa sœur. Et donc, du coup, dans ces cas-là, on peut avoir des conflits fraternels sans nécessairement que ce soit vraiment de la rivalité, mais qu'on peut la confondre avec de la rivalité.
N'oublions pas que les enfants, eux aussi, ont des émotions et qu'elles leur demandent un temps d'apprentissage.
Une des étapes, alors après, a posteriori de la crise, c'est vraiment d'apprendre l'enfant à essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire, surtout à 7-8 ans, on peut l'amener à réfléchir sur la situation. En revenant en arrière, en disant, bon alors, on va reprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui a été difficile pour toi? Quelle situation a pu engendrer cette colère? Et aussi apprendre à l'enfant à identifier physiquement les antécédents de la colère. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as ressenti dans ton corps? Est-ce que ton cœur y battait? Est-ce que tu avais ton ventre qui s'est serré? Est-ce que tu avais les mains moites, etc. Tout ce qui peut en fait être signe d'un énervement pour que l'enfant apprenne à l'identifier et puisse, au fur et à mesure, faire baisser ce niveau de tension. Parce qu'en fait, une fois que la colère a démarré, il faut attendre que le volcan s'éteigne pour pouvoir intervenir.
Chez les enfants, la colère est souvent une émotion qui se manifeste de manière un peu plus bruyante pour les parents.
Il faut voir le contexte, c'est-à-dire est-ce que, par exemple, les parents ont demandé à la petite fille de mettre le couvert ou de mettre ses chaussures ou autre à un moment où elle faisait une activité plaisante. Et donc là, parfois, il y a un problème de temporalité entre les parents et les enfants, où les parents attendent que les enfants répondent immédiatement à leurs demandes, alors que les enfants peuvent être engagés psychiquement dans quelque chose qui leur plaît. Et donc forcément, d'abandonner ça pour faire quelque chose qui est peut-être moins plaisant, ça peut créer des tensions. Essayer de raisonner un enfant qui est en train de faire une colère, c'est pas possible parce qu'il est pas du tout accessible, en fait. C'est un peu comme s'il y avait un feu dans son cerveau et du coup, il est en alerte et du coup, il peut pas entendre raison en disant « mais vas-y, calme-toi », etc.
Mais qu'est-ce que cette maman peut faire concrètement quand sa fille est en pleine crise ?
Parfois, un enfant peut avoir besoin de rester un peu seul pour se calmer, mais dans ces cas-là, ça doit pas être vécu sous une punition. Ça doit être expliqué à l'enfant, voilà, c'est pas une punition. Je pense que tu as besoin un petit peu de te calmer et donc je suis à côté si tu as besoin et du coup on en reparle après. En fait, une minute ou deux, c'est largement suffisant. Un temps trop important, en fait, l'enfant peut se sentir exclu, mis à l'écart et c'est pas... on va avoir l'inverse de ce à quoi on attend.
Parfois, parents et enfants ne se comprennent pas.
Et il y a aussi le fait de pas demander plusieurs choses en même temps à un enfant. C'est-à-dire de pas lui dire, tu mets tes chaussures et puis tu mets ton manteau et puis après tu vas chercher ton sac à dos, etc. Parce que du coup, en termes de surcharge cognitive, il y a des enfants qui ont des capacités d'attention qui sont moins importantes que les autres. Et donc, du coup, ils vont retenir moins d'informations. Donc, il y a des chances que ça passe, il y en a une ou deux qui passent à la trappe. Et que du coup, l'enfant n'arrive pas à planifier ce qu'il doit faire. Et donc finalement, face à ces difficultés, il peut décider par exemple de ne rien faire ou oublier la moitié, ce qui peut après dire « mais non, mais je t'avais dit, mets tes chaussures ».
On espère que ça aidera tous les parents confrontés au même genre de situation.
C'était Salut la Daronie, un podcast de Slate Podcast. Salut la Daronie est adapté d'une chronique de Slate.com, à la direction éditoriale Christophe Caron, à la production éditoriale Nina Pareja, à l'écriture, la présentation et la réalisation Mona Delahaye. Si vous souhaitez témoigner pour Salut la Daronie, n'hésitez pas à nous écrire à podcast@slate.fr.